monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute. Jacques Aristide pour vous présenter un nouveau numéro du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Il est 19h30 en temps universel, les titres en ce jeudi 19 avril 2018. En Côte d'Ivoire, le PDCI présentera un candidat à la présidentielle de 2020. Manifestation réprimée et interpellation d'un ex-premier ministre au Sénégal en marge de la réforme du code électoral. En RDC, interdiction de sortie du territoire pour Constant Omari, le plus haut dirigeant du football congolais. À l'international, l'Irak dit avoir mené un raid contre le groupe État islamique en Syrie en raison du danger qu'il représente. Dans la partie magazine, nous irons à la rencontre d'un groupe de jeunes congolais qui recyclent des déchets pour éclairer Bukavu. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports dans environ 10 minutes. En République démocratique du Congo, le président de la Fédération congolaise de football est interdit de quitter le territoire. Constant Omari est soupçonné de corruption. Également membre du comité exécutif de la FIFA, il a été remis en liberté provisoire hier après-midi. Plusieurs heures de garde à vue. Trois autres dirigeants congolais, Barthélémy Okito, Roger Bondembe et Théobald Binamungu, ont également été remis en liberté provisoire ce jeudi contre paiement d'une caution d'1 million de francs congolais chacun. La Ligue nationale de football a suspendu ses activités jusqu'à nouvel ordre par solidarité avec ses dirigeants. En Côte d'Ivoire, le PDCI, l'un des deux grands partis de la coalition au pouvoir, présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2020. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui son président, Henri Konan Bédié. Il s'exprimait sur un débat qui agite la scène politique du pays. Le PDCI, allié du RDR, du président Alassane Ouattara, revendique l'alternance depuis des années. Après avoir soutenu M. Ouattara au présidentiel de 2010 et 2015, le PDCI estime qu'il lui revient de présenter un candidat à l'élection de 2020 avec le soutien du RDR, mais ce dernier entretient l'ambiguïté sur ses intentions. Au Sénégal, les forces de l'ordre ont empêché à coups de gaz lacrymogène la tenue de manifestations aujourd'hui à Dakar. Des opposants, dont l'ancien chef du gouvernement Idrissa Seck, venus protester contre le vote de la révision du code électoral moins d'un an avant la présidentielle, ont été interpellés. De la capitale sénégalaise, le compte-rendu de notre correspondant Sedina Bagueille.
Depuis plusieurs heures, les forces de l'ordre traquent les manifestants dans les rues et les ruelles de la capitale sénégalaise. À Dakar, policiers et gendarmes ont très tôt pris position dans les points stratégiques. Les forces de l'ordre usent abondamment des gaz lacrymogènes pour disperser tout mouvement de foule. Malgré leur détermination, les manifestants n'ont pu accéder à la place Soweto, symbole de l'insurrection du 23 juin 2011 qui avait obligé le président Abdoulaye Wade à retirer un projet de loi qui visait aussi une modification de la loi électorale. Les leaders de l'opposition qui ont appelé à manifester ont très tôt été mis aux arrêts. Parmi eux, l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Ce dernier est l'un des derniers pions de l'opposition pour la présidentielle de 2019. D'autres arrestations sont à déplorer, notamment celle de l'ancien ministre du Commerce de l'actuel régime. Malgré les multiples interventions de la police, plusieurs manifestations sont en cours dans la capitale. Dans l'hémicycle, la tension est à son paroxysme. Des échauffourées ont d'ailleurs opposé les députés de la majorité à ceux de l'opposition. À Dakar, Seydina Abagueille pour VOA Afrique.
Nous y reviendrons tout à l'heure dans la tranche magazine. Au Tchad, les évêques catholiques appellent à une adoption par référendum de la nouvelle constitution plutôt que par voie parlementaire. La conférence épiscopale tchadienne estime que le projet ne reçoit pas l'adhésion de l'ensemble des citoyens. Raissa Girondin pour les détails.
L'Église, dans un communiqué, a rappelé que le changement de constitution doit se faire dans le respect de la constitution qui dit que sa révision est adoptée par référendum. Les évêques dénoncent l'adoption de la nouvelle constitution par voie parlementaire, estimant que le projet ne reçoit pas l'adhésion de l'ensemble des citoyens. La conférence épiscopale tchadienne note aussi que la pauvreté grandit de plus en plus et de graves violations des droits humains fondamentaux se généralisent au Tchad, marqué ce début d'année par une forte grogne sociale. L'adoption du nouveau texte constitutionnel est prévue à l'Assemblée nationale fin avril. S'il est adopté, le président tchadien, Idriss Déby, pourrait se représenter en 2021 et, théoriquement, effectuer deux autres mandats de 6 ans jusqu'en 2033.
Au Burundi, l'Assemblée nationale a adopté hier à une très grande majorité un projet de loi sur la révision du code pénal. Désormais, les perquisitions de nuit et sans mandat d'un magistrat seront menées par les forces de l'ordre qui peuvent fouiller tout un quartier. L'opposition burundaise, tout comme les organisations de défense des droits humains, dénoncent ce projet de loi qui, disent-elles, fait reculer la démocratie. De Bujumbura, le point avec notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Par un an de voix pour, 22 contre de la principale formation politique de l'opposition, le Front National de Libération d'Agathon Rwasa, et 0 abstention, les députés de l'Assemblée nationale burundaise ont adopté un projet de loi portant révision du code pénal. La ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, a justifié en affirmant que le Burundi est aujourd'hui confronté à des formes de criminalité particulièrement graves, comme le terrorisme, le trafic humain, la détention illégale d'armes à feu, la consommation de stupéfiants et des infractions à caractère sexuel. Pour lutter contre ces phénomènes, la ministre Kanyana préconise d'adapter des stratégies novatrices tendant à développer des procédures spéciales dérogatoires du droit commun. Si la loi est adoptée par le Sénat, le texte donne la permission aux forces de l'ordre de procéder à des perquisitions de nuit et sans mandat. Pour Léonce Ngendakoumana du parti Front pour la démocratie au Burundi, le pouvoir de Bujumbura est en train d'enterrer la démocratie au Burundi car les forces de l'ordre auront la permission de boucler tout un quartier pour des perquisitions multiples. Pour la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, c'est une volonté du pouvoir en place pour museler l'opposition à moins d'un mois du référendum constitutionnel. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le Parlement de Guinée-Bissau a prorogé aujourd'hui la législature jusqu'aux élections du 18 novembre. Lors de sa première réunion après quasiment 2 ans d'interruption, le pays traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingos Chimoesh Pereira. Un nouvel accord de sortie de crise a été conclu lors d'un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest le 14 avril à Lomé. Un accord qui prévoit la désignation d'un premier ministre de consensus, Aristides Gomes, qui a pris ses fonctions le 16 avril dernier. Il est chargé de conduire le pays aux élections législatives, ainsi que la reprise des travaux du Parlement.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée de l'air irakienne a mené aujourd'hui un raid meurtrier contre des positions du groupe djihadiste État islamique en Syrie. C'est ce qu'indique le bureau du chef du gouvernement, Haider al-Abadi. Dans un communiqué, ce bureau affirme que le raid contre les gangs de Daesh, je cite, a été mené en raison du danger qu'il représente pour le territoire irakien et a été conduit sur ordre du Premier ministre, qui est le chef des forces armées. Une vidéo distribuée par l'armée de l'air irakienne montre 2 F-16 en action. La coalition internationale anti-djihadiste conduite par les États-Unis a confirmé le raid qui a eu lieu, d'après elle, près de Hajin, une localité de la province syrienne de Deir ez-Zor. Le président sud-coréen Moon Jae-in a souhaité la conclusion d'un traité de paix pour mettre fin à la guerre de Corée à l'approche d'un sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Yakuba Ouedraogo.
L'armistice qui traîne en longueur depuis 65 ans doit prendre fin, a déclaré le président sud-coréen Moon Jae-in. Il a cependant souligné que la conclusion d'un traité de paix serait soumise à l'abandon par la Corée du Nord de ses programmes nucléaires et balistiques. Le président Moon Jae-in a aussi fait savoir que si le sommet intercoréen et le sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis débouchent sur la dénucléarisation, il ne sera pas difficile de trouver des accords sur la normalisation des relations entre le Nord et les États-Unis. Le sommet entre les deux dirigeants coréens sera le prélude d'une rencontre historique entre M. Kim et le président Donald Trump qui a prévenu que cette réunion pourrait être annulée s'il la juge non fructueuse. D'après M. Moon, pour l'heure, la Corée du Nord montre à la communauté internationale une disposition pour une dénucléarisation totale. Il dit toutefois qu'il est trop tôt pour garantir le succès du dialogue intercoréen qui ne pourra avoir lieu qu'après un sommet américano-nord-coréen réussi.
Également dans l'actualité à l'étranger, la Russie affirme avoir trouvé des cylindres contenant du chlore en provenance d'Allemagne et des fumigènes britanniques dans la Ghouta orientale en Syrie. Ex-enclave rebelle reprise par le régime syrien et théâtre début avril d'une attaque chimique présumée, Moscou a multiplié les annonces ces derniers jours pour dénoncer une mise en scène des rebelles syriens à Douma le 7 avril dernier. Cette attaque, présumée au gaz toxique imputée aux forces de Bachar al-Assad, aurait fait au moins 40 morts. Elle a déclenché des frappes de Washington, Paris et Londres contre des installations du pouvoir syrien et un pic de tensions diplomatiques. Une équipe d'enquêteurs de l'ONU ne pouvait toujours pas se rendre sur place ce jeudi pour des raisons de sécurité. Une mission de reconnaissance avait été la cible de tirs quelques jours plus tôt. Et voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un résumé de l'actualité économique en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
L'insécurité alimentaire risque de s'aggraver dans le Sahel. La sécheresse chasse les troupeaux et leurs bergers vers des contrées plus accueillantes. Les animaux ont envahi et détruit des parcelles de culture, ce qui a déclenché une crise pastorale. Les investissements en semences et engrais ont été anéantis. D'ici l'été, les personnes en besoin d'assistance alimentaire pourraient dépasser 10 millions. Les récoltes de céréales ont sensiblement baissé en Gambie, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau et au Tchad. Les prix des céréales et tubercules restent plus élevés que la moyenne des 5 dernières années. La production de fourrage a aussi baissé de 95% en Mauritanie et de 80% au Sénégal. La CEDEAO se réunira le 28 avril à Abuja pour trouver rapidement une solution. La Mauritanie et le Tchad vont aussi participer à cette rencontre. Les États-Unis et le Japon vont lancer des discussions sur des accords commerciaux libres, équitables et réciproques. Cependant, le président Donald Trump et le premier ministre japonais Shinzo Abe reconnaissent la persistance de différences de vues. Le Japon veut faire revenir Washington dans l'accord de libre-échange transpacifique TPP, tandis que les Américains privilégient un accord bilatéral de libre-échange. Monsieur Trump s'est retiré du TPP dès son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017. Pourtant, 11 pays des deux rives du Pacifique ont signé ce traité commercial, sauf la Chine.
Et maintenant, tour d'horizon des nouvelles sportives avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques.
Alors, le tableau des qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe CAF est complet.
Tout à fait Jacques, les 16 formations qui se disputeront le trophée de cette saison sont connues et l'Afrique de l'Ouest effectue un retour en force avec 5 clubs, la SEC Mimosa et le WAC de la Côte d'Ivoire, Enimba du Nigeria, Djoliba du Mali et Adouana Stars du Ghana représenteront la zone Ouest. La zone Nord aligne 4 équipes avec les Marocains de Renaissance Berkane et Raja Casablanca, l'USM Alger et Al Masri d'Égypte. 4 représentants également pour la zone S avec Gor Mahia, Nyanga, Al Hilal et Rayon Sport. L'AS Vita Club de la RD Congo et Kara du Congo sont les porte-drapeaux de la zone centre. L'UD Songo du Mozambique est l'unique représentant de la zone sud. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe CAF est prévu pour ce samedi 21 avril.
En Espagne, à Cuba, Ivan Rakitic devrait être opérationnel face au FC Séville en finale de la Coupe du Roi.
Et oui, Jacques, le milieu de terrain croate a repris l'entraînement aujourd'hui même avec le FC Barcelone à 2 jours seulement de la finale de la Coupe du Roi qui doit opposer le Barça au FC Séville samedi à Madrid. Opéré mercredi dernier d'une fracture à la main gauche, contractée contre l'AS Rome la veille du quart de finale retour en Ligue des Champions, Ivan Rakitic pourrait effectuer son retour à l'occasion de cette finale.
Et pour terminer, parlons d'argent. La Liga a enregistré 3,6 milliards d'euros de recettes en 2016-2017.
Un record, Jacques, c'est sûr. Et puis sur ces 3,6 milliards d'euros de recettes, bien sûr, 1,46 milliard correspond aux droits télé. Les bénéfices avant impôts s'élèvent à 234 millions d'euros. La Liga espagnole a enregistré une augmentation de près de 500 millions d'euros par rapport à la saison précédente. C'est la meilleure saison en termes de résultats économiques et financiers d'après Javier Gomez, président de la Liga. Pour la saison en cours, il espère dépasser pour la première fois la barre des 4 milliards d'euros de revenus.
Yacouba Ouédraogo, qui s'y connaît en chiffres. Merci bien Yacouba.
Merci à vous Jacques.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre segment magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. Comme promis, retour au Sénégal, où plusieurs manifestations à Dakar et dans d'autres villes du pays ont été dispersées par les forces de sécurité. L'opposition avait appelé les populations à se rendre devant l'Assemblée nationale, où les députés devaient voter une nouvelle loi électorale qui exigerait à tout candidat à un scrutin de présenter au moins 65 000 signatures d'électeurs. Pourquoi cette loi dite de parrainage suscite-t-elle tant la polémique pour un décryptage? Abdourah Mandia s'est entretenu avec le politologue Abdoulou.
Sur le fond, sur le principe, je pense que l'ensemble de la classe politique sénégalaise, la société civile et l'opinion globalement est pour une réforme, une modernisation, une rationalisation des partis politiques, parce qu'il y en a beaucoup trop au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons 290 partis politiques. Donc là n'est pas la question. Ce qui fait débat, c'est le fait que le président de la République veuille faire passer un projet de loi en force à l'Assemblée nationale parce qu'il détient la majorité. Le projet de loi veut que chaque candidat à l'élection présidentielle réunisse ou mobilise 65 000 signatures des électeurs pour pouvoir être candidat. Depuis le code présidentiel de 1992 au Sénégal, l'élection, le code électoral a toujours été discuté et entendu par les différents acteurs, le parti au pouvoir avec l'opposition et la société civile. Cette fois-ci, ce qui est surprenant, c'est cette volonté de vouloir passer en force.
Et justement, le bulletin unique pourrait régler une bonne partie de la question. Pourquoi, selon vous, le parti au pouvoir ne veut pas du bulletin unique?
C'est là qu'il faut aller voir qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette volonté de dire il faut que chaque électeur, chaque candidat puisse mobiliser 65 000 voix, 65 000 par an, c'est-à-dire 1% de l'électorat global sénégalais qui aujourd'hui tourne autour de 6,5 millions d'électeurs, en disant qu'un candidat ne peut parrainer que pas, ou bien un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat à la fois, c'est-à-dire que ça offre la possibilité d'éliminer beaucoup de candidats.
Cette loi sur le parrainage existe déjà quand même pour les candidatures indépendantes. Pourquoi l'opposition semble ne pas avoir problème avec cela?
Très bonne question. Très bonne question parce qu'effectivement, c'était totalement injuste d'imposer aux candidats indépendants d'avoir 10 000 signatures. La loi imposait aux candidats indépendants qui ne font aucun parti politique d'amener 10 000 signatures pour pouvoir participer au concours pour être président de la République. La nouveauté de cette loi, c'est de dire que ça s'appliquera à tous les candidats indépendants comme ceux issus des partis politiques, mais avec un taux de 65 000 voix. Donc on parle plus de 10 000 voix. Ça nécessite de discuter à tous les acteurs, toutes les parties prenantes pour aboutir à quelque chose. Les familles religieuses au Sénégal, toutes les confrères religieuses, les clergés, la société civile, tout le monde a appelé le président Macky Sall à sur soi, au vote de cette loi-là pour trouver un consensus. Et il ne veut rien entendre. Jusqu'à hier, il ne voulait rien entendre. Aujourd'hui, ils sont devant le Parlement et ça bouge au Sénégal. Il y a des émeutes un peu partout.
L'analyste politique sénégalais Abdoulou, il était en ligne au téléphone de Dakar. Abdoulou.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
L'eau, une denrée rare dans le nord-ouest du Burundi. Trois collines de la commune de Murwi, dans la province de Cibitoke, en manquent cruellement. Pour s'en procurer, les habitants doivent marcher plus de 3 heures. Les autorités indiquent que les habitants de ces collines n'ont qu'un seul robinet public sur une population estimée à plus de 27 000 personnes. Normalement, chaque colline devait avoir au moins 7 robinets, d'après les responsables. Eh bien, le gros plan maintenant du correspondant de VOA Afrique au Burundi, Christophe Nkurunziza.
Les collines de Macha, Gitoera et Manéye sont celles qui manquent éperdument d'eau dans cette commune de Mugui. Même l'eau de pluie n'est pas tombée depuis plus de 2 mois. Jésus-Marie Nyonguru, le responsable de la régie communale de l'eau de Mugui au nord-ouest du Burundi, indique que ces derniers temps, la population a augmenté, mais les sources d'eau ont tari suite à la sécheresse. Résultat de ce manque d'eau, les habitants de la circonscription de Macha et des environs n'ont pas d'eau pour se laver. Élèves et vieillards portent des habits sales, comme l'a constaté VOA Afrique. politique sur place. Beaucoup d'habitants se baladent avec des poux sur la tête, comme en témoigne cette personne âgée.
Nous avons beaucoup de poux car nous n'avons pas d'eau pour laver nos habits. Pour exemple, je porte ce maillot de corps depuis presque un mois sans pouvoir le laver.
Cette commune de Mugui a beaucoup de bananes pour la production de vin de bananes, mais par manque d'eau potable, certaines activités économiques sont au ralenti. Les habitants ont arrêté la production de ce vin, selon le chef de colline de Macha, Onesfor Niwandete.
Nous avions de l'eau, beaucoup de voitures viendraient charger ce vin de bananes. Faute d'eau, nous acheminons les bananes vers le centre de Mugui. Comme nous avons un petit marché, d'autres bananes sont acheminées vers celui de la colline de Manerigui, située près de la route.
Le manque d'eau a aussi des effets néfastes sur la scolarisation des enfants de cette localité. Un enseignant ne cache pas sa peine.
Il est difficile de ne pas voir les conséquences réelles de ce manque d'eau. Nous rappelons aux élèves chaque lundi la nécessité de se laver régulièrement. Quand nous sommons les petits de rentrer se laver.
Les parents d'élèves ont peur pour leurs enfants dans cet univers où l'eau est une denrée rare. Témoignage de cette maman.
Nous avons peur que nos enfants s'empoisonnent à cause de ce manque d'eau. Ils cherchent en vain de l'eau à l'école. Des fois, ils se rendent dans les maisons voisines ou vers les sources aux eaux insalubres. Souvent, les enfants tombent malades.
Le conseil social de l'administrateur communal affirme que cette question est connue. Plus de 70 millions de francs bons ont été prévus pour trouver une solution à cette question de manque d'eau. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
À Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, le manque d'électricité entrave la bonne marche de beaucoup de services et quand tombe la nuit, les familles sont dans l'obscurité. Pour pallier ce problème, quatre jeunes électroniciens et électriciens ont décidé de créer une entreprise, Kwanza Technologies. Ils recyclent les composants électroniques tirés de vieux ordinateurs et téléviseurs qu'ils ramassent dans les décharges de la ville pour produire des lampes torches à grande autonomie. Notre correspondant Ernest Mouhero les a rencontrés.
Fraîchement sortis de l'université, ces jeunes de Bukavu fouillent régulièrement les décharges publiques à la recherche des composants électroniques et d'objets plastiques déclassés.
On a vu l'insalubrité grandissante dans la ville de Bukavu. Nous nous sommes dit être bons à pallier à ces problèmes. Et tous nos circuits qu'on fait, on incorpore ça dans les déchets plastiques qu'on récupère ici, notamment les bidons.
Ces quatre génies de Bukavu ont décidé d'unir leur savoir en électricité et en électronique pour fabriquer des lampes torches et apporter leur contribution à la solution du problème de l'électricité.
On reprend ce qui est encore utilisable, comme les condensateurs, les transistors, et puis on les rassemble pour construire les circuits qu'on utilise dans beaucoup de nos torches. Et la spécificité de la torche est que ça a une autonomie de 7 à 10 jours, mais on a été bloqué dans beaucoup d'aspects, comme manque de machines, comme l'imprimante 3D pour faire des formes pour le box de nos circuits, pour emballer bien nos produits.
L'aventure commence en 2015 quand ces jeunes créent leur laboratoire baptisé Kwanza Technologies. Là, ils travaillent jour et nuit à fabriquer sur commande des torches à grande autonomie équipées d'un dispositif de recharge pour les téléphones portables.
En créant Kwanza, l'idée vraiment était vraiment de faire quelque chose dont les autres n'ont jamais fait. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a commencé par fabriquer des torches et on est allé jusqu'à faire des convertisseurs, des amplificateurs de son et d'autres petits circuits. Les besoins sont grands. On a commencé à produire une torche par jour. Mais pour le moment, on vend jusqu'à 2 torches le jour. On termine juste à faire une torche, il y a directement un client.
Vu le peu d'électricité dans la région, les habitants de Bukavu saluent cette initiative qui améliore leur quotidien.
Auparavant, nous achetons les torches au marché. Mais ça fait un jour seulement et puis c'est épuisé. Mais les torches qu'ils fabriquent ici à Bukavu, ça nous aide beaucoup.
Avec un petit budget de départ, moins de $500, les génies de Bukavu font des merveilles.
Ernest Mouhero pour VOA Afrique, Bukavu.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, des anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205. 2633. 001-202-205. 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Point final à cette édition du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par mon ami et collègue Sims Lumami. C'était Chang à la technique. Un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée sur VOA Afrique. Un peu fatigué. Allez, bonne soirée.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayigouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 12 mars, le Premier ministre de la Santé et d'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan la réunion initiale sur la première étude nationale sur l'impact du sida qui a porté sur plus de 20 000 personnes à ce jour. L'étude, appelée « Évaluation de l'impact du sida sur la population de Côte d'Ivoire » ou CIFIA, a pour objectif de tester un échantillon représentatif de la population ivoirienne pour ensuite utiliser des modèles statistiques afin de mesurer le niveau actuel de la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Le projet CIFIA est financé par le plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le sida, le PEPFAR. La Côte d'Ivoire fait partie des 13 pays en passe de contrôler l'épidémie du sida d'ici 2020 grâce à la récente stratégie d'accélération du PEPFAR. La réunion du comité d'organisation du projet CIFIA a fourni des directives stratégiques ainsi qu'une supervision de l'étude ayant commencé en août 2017. Jusqu'ici, environ 11 000 ménages y ont participé et ont donné leur échantillon de sang. Les résultats préalables du CIFIA sont attendus pour décembre 2018. Selon Catherine Bracker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ces estimations sont des projets complexes et j'applaudis le haut niveau d'engagement des tant d'intervenants dans ce projet. Des représentants du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies ont assisté à la réunion, à l'invitation du Dr Raymond Goudou Goffi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est elle qui préside le comité et a été représentée par son directeur de cabinet. Lors de cette réunion, le Dr G. Laïssa Ouedraogo, directrice pays du CDC, a expliqué qu'une fois achevé, le projet CIFIA aidera la Côte d'Ivoire à mieux cibler sa prévention et ses efforts de traitement du sida. Celle-ci a également loué le ministère pour son leadership et son expertise. Des représentants de l'Institut national des statistiques ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ont également intervenu au début de la rencontre. Le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie ainsi que le Zimbabwe ont mené à bien des évaluations similaires de l'impact du VIH sur la population au cours des 18 derniers mois soutenus par le PEPFAR. Le CDC et d'autres participants tels que l'ICAP de l'Université de Columbia aident aussi le gouvernement avec ses études. Et selon la chargée d'affaires Bracker, les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont un partenariat très ancien en termes de santé publique datant de plus de 30 ans. Nous sommes conscients que des bonnes données scientifiques sont essentielles pour parvenir au contrôle de l'épidémie de SIDA-VIH. Je suis donc réconforté par ces discussions productives sur l'utilité des résultats du projet CIFIA.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Tout de suite, un programme en rediffusion.